Nous arrivons gentiment vers la fin de l'année liturgique et le calendrier liturgique nous propose de finir cette année par trois réflexions. Avant ce chapitre vient tout le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, qui est un chapitre un peu dur, ce qu'on appelle l'Apocalypse de Matthieu, où Jésus s'assit avec ses disciples et leur parle. Ces disciples qui viennent de lui dire « Mais vois-tu ce temple comme il est beau ?» Et Jésus leur dit « Mais ce temple sera détruit. » Et là, il s'assit avec eux sur le mont des Oliviers et leur annonce une forme de révélation de choses assez effrayantes qui vont arriver. Une apocalypse au sens un petit peu cruel de la chose. Et à l'intérieur résonne une phrase « Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre » se refroidira. Voici un peu ce qu'annonce cette apocalypse, une forme d'annonce de la fin des temps qui nous invite à rester vigilants, quand bien même les choses seront dures, quand bien même les temps deviennent durs, avec cette idée de maintenir l'amour vivant. Et puis vient donc trois paraboles qui terminent notre année liturgique. La première, celle des 10 vierges dont nous allons parler. La seconde, c'est la parabole des talents qui nous dit, en fait les trois paraboles parlent de comment vivre ce temps jusqu'au moment où revient le Seigneur, comment habiter notre vie. Et la parabole des talents nous parle de l'importance qu'il y a de mettre en valeur ce que nous avons reçu, de ne pas attendre sans rien faire. Et enfin, la dernière parabole, qui est la parabole des brebis et des boucs, qui nous dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce roi qui revient à la fin des temps sait que la façon dont nous l'avons traité, c'est la façon dont nous avons traité notre prochain. La parabole des 10 vierges, donc, que nous avons entendue ce matin, elle nous perturbe, je pense. Elle nous travaille. J'avoue que au moment de choisir sur quoi je vais prêcher dans une prédication en préparant mon culte, je ne suis pas toujours l'ordre liturgique, mais je le lis toujours pour savoir qu'est-ce qu'il nous propose. Et en voyant cette parabole, elle me perturbait, elle me travaillait, et c'est pour ça que je me suis interdit de la contourner. Et je crois que j'ai bien fait, qu'il faut aller chercher vraiment quel est son message fondamental, parce qu'elle est vraiment intéressante. D'abord, donner quelques clés d'interprétation. Ce n'est pas un cadre de polygamie. On parle de 10 vierges qui attendent un époux. Alors forcément, on se dit, quel est donc ce mariage un peu curieux? Non, c'est vraiment, ça renvoie à une tradition palestinienne de l'époque de Jésus. Certains disent qu'elle est toujours vivante en Palestine, de dire qu'en fait, il y avait 10 vierges qui allaient chercher l'époux pour l'amener à l'épouse. Donc en fait, c'était vraiment une sorte de jeune fille d'honneur qui allait chercher l'époux et qui partageait, qui entrait dans la salle de fête pour partager le grand repas de la fête. L'image du roi qui part et qui revient, de l'époux qui arrive un petit peu, on ne sait pas quand, c'est évidemment l'image de ce Jésus de la fin des temps qui revient pour rassembler son église dans une grande noce, dans un grand banquet. Et nous sommes invités donc à nous recevoir, à nous voir, à nous lire à travers ces 10 vierges qui attendent. Sommes-nous de ceux qui sont sages et qui prennent des réserves d'huile, ou de ceux qui sont fous et qui oublient de faire une réserve suffisante d'huile pour être prêts au bon moment? La conclusion arrive, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cette idée que nous devons maintenir nos lampes toujours prêtes, être allumé, à aller chercher l'époux qui revient. Il y a évidemment aussi l'image de l'huile. L'huile dans la Bible, c'est un peu incontournable, c'est une image de tout ce qui est bon. Dans les terres arides où se déroulent les récits bibliques, l'huile c'est une bénédiction. En cela, elle montre finalement la prière. Quand elle brûle, c'est un petit peu l'image de cette prière qui monte. Elle peut montrer le Saint-Esprit. Il y a encore aujourd'hui, chez nos frères catholiques, cette idée du Saint-Crème qu'on met sur le front des enfants après le baptême pour montrer la marque de l'Esprit qui vient sur la personne. Toutes ces choses, c'est l'huile qui a un contenant vraiment symboliquement très spirituel. Pour actualiser un petit peu cette parabole, je voudrais vous raconter un épisode éventuellement de ma vie. Quand j'avais 20 ans et que j'étais jeune adulte à Paris, Paris a été construit avec de la pierre qu'on allait chercher en dessous. Donc il y a des grandes galeries qui ont été creusées depuis tout temps à 30 mètres sous terre, sous Paris, pour faire remonter le calcaire nécessaire pour construire Paris. Du coup, sous Paris, il existe ce qu'on appelle les catacombes. On a eu parfois vidé les cimetières en mettant tous les os dans ces catacombes, et ça fait vraiment un endroit très mystérieux, très surprenant, assez unique. Et évidemment, pour descendre dans ces catacombes, il y a quelques passages qu'il faut bien connaître. C'est pas tout à fait légal. Il y a une police qui surveille que ce qu'on y fait n'est pas trop catastrophique. Mais voilà, quand j'avais 20 ans, j'aimais beaucoup, avec quelques amis scouts, descendre dans les catacombes pour parcourir ces endroits incroyables, mystérieux. Alors, on n'était pas des fous qui allaient chercher des endroits encore jamais vus, mais on se baladait dans ces parcours assez sympas pour aller, par exemple, fêter un anniversaire sous les catacombes. Mais bien sûr, comme dans toute entreprise un peu de spéléologie, il y a un moment crucial, c'est les règles. Lorsqu'on descend sous terre, à un endroit où il n'y a pas de réseau de téléphone portable, où même la boussole ne marche pas vraiment, il est important d'avoir les bonnes réserves, et notamment d'avoir une lumière avec des piles neuves. Et au moment où on entreprend donc de descendre sous terre avec des amis, évidemment, on compte sur chacune et chacun. Pour avoir une lampe avec des piles neuves, quand bien même on l'aurait déjà utilisé une ou deux fois, on en change les piles, parce que ça serait la catastrophe d'être en bas, sans piles. C'est un peu cette idée que lorsqu'on vit cette expérience, il n'y a pas de place pour la folie. Il y a besoin d'un certain cadre, il y a besoin d'être sûr, d'avoir une lampe avec soi. Une autre version de la parabole des 10 vierges, être sûr dans ce monde de ne pas prendre le risque de tomber en panne de lumière. Mais cette parabole dit quelque chose d'autre. Va un petit peu plus loin, et pour voir ce qu'elle va nous dire de plus, il faut voir où est-ce qu'elle nous choque. Et moi je crois que cette parabole nous choque beaucoup au moment où les folles demandent aux sages « Donnez-nous de votre huile !» car nos lampes sont en train de s'éteindre, et que les sages leur répondent « Ah non, il n'y en aurait pas assez pour nous tous, allez plutôt en acheter et on se retrouve au mariage. » Elle nous choque parce que si on lit l'évangile, on y voit le partage, on y voit la bienveillance, prendre soin des autres, les accueillir comme ils sont, ne pas les juger, et d'un coup, dans cette parabole, on se permet de ne pas partager l'huile, de ne pas partager son pain avec le prochain. Et on se dit, mince, il y a un décalage par rapport au discours de l'Évangile. Et ce décalage, Jésus, dans cette parabole, l'assume complètement. Il ne se permettrait pas de le dire s'il y avait ambiguïté sur le fait qu'il fallait partager ou pas. Et donc, nous devons entendre que s'il se permet de rajouter ce petit épisode, c'est qu'il a quelque chose de très précis à nous raconter. C'est qu'il y a là un point important, une clé de lecture. Si Jésus en parle, je crois, c'est parce qu'il veut nous mettre en garde. Il veut nous alerter sur cette chose si importante qui est la responsabilité individuelle. Le fait que, devant Dieu, il ne faut pas se reposer sur les autres, mais nous sommes chacun responsables de la façon dont nous menons nos vies. En 1951, un petit peu après la guerre, avant Milgram et sa fameuse expérience, il y a eu un psychothérapeute, Solomon H., qui a publié une expérience qu'il a faite avec des personnes. Il a pris 7 personnes et il a répété cette expérience plusieurs fois. Et d'un côté, il mettait 3 bâtons de différentes tailles, et d'un autre côté, il mettait un autre bâton. Et il posait une question toute simple, quel est, de ces 3 bâtons, celui qui est la même taille que le 4e? Lorsqu'on fait cette expérience normale, il s'est aperçu qu'il y avait moins de 1% de faute. Tout le monde voit, reconnaît quel est le bâton qui correspond au quatrième. Et puis, il a faussé les cartes. Il a mis un vrai cobaye dans le dos et 6 personnes qui allaient mentir. Et au bout d'un moment, les personnes qui vont mentir vont dire « c'est tel bâton qui, objectivement, n'est pas du tout le même ». Et tout le monde se règle en disant « c'est tel bâton » pour voir si celui qui, en face de lui, a une vérité explicite, va se ranger à la vérité des autres ou si il va être fidèle à ce qu'il voit et à l'expérience qui lui est demandée. Et il s'est aperçu que 30% des cas, d'un coup, disaient une fausse réponse. D'un coup, parce que les autres disent « c'est ça la vérité », ils disent « c'est ça la vérité ». Et c'est le moment, je crois, où ils ne rendent plus compte de leur expérience personnelle. Ils oublient leur responsabilité individuelle pour se caler sur l'ordre général, ce qui est globalement admis, se reposer sur les autres, comme peut-être les 5 vierges folles se reposent sur les autres pour attendre le retour de l'époux. Cette expérience nous dit que l'homme a parfois bien du mal à prendre ses responsabilités, à être vrai, surtout quand tout le monde pense autre chose. Et pourtant, face à Dieu, chacun devra rendre personnellement compte de sa vie. Un exemple qui illustre très bien ça, aujourd'hui, c'est le défi de la pollution. La pollution, c'est l'affaire de chacune et chacun, et pourtant nous sommes toutes et tous responsables seulement d'une micro-goutte de pollution dans le monde, et pourtant ces micro-gouttes accumulées deviennent un gros problème pour tout le monde. Alors comment on fait pour résoudre ce problème ? Est-ce que chacun fait un effort ou est-ce qu'on essaye de voir des formules de gros, des formules de grands ? Mon frère, qui travaille dans les autoroutes, il travaille dans la partie développement durable des autoroutes, quand il faut construire une nouvelle autoroute, il faut penser l'appel d'offres, il faut penser quel est l'impact qu'il va y avoir sur la nature, nous disait qu'entre Saint-Étienne et Lyon, l'autoroute était complètement surbookée et l'État français a décidé de reconstruire une autoroute, donc appel d'offres, création de nouvelles autoroutes. Et donc on construit une nouvelle route en se demandant comment organiser la circulation des personnes. Et il s'est dit, si c'est l'État qui fait, il y a une nouvelle autoroute, on peut construire aussi une nouvelle voie de chemin de fer, tout ça coûte énormément d'argent et diminuera un petit peu éventuellement la pollution, ou un petit peu le trafic. Mais ce qui marcherait mille fois mieux, c'est si chacun partageait sa voiture avec un autre. D'un coup, on en parle à la responsabilité individuelle de chaque personne. On divise par 2 le nombre de voitures et le problème est résolu. Pas besoin de nouvelles autoroutes, pas besoin de nouvelles voies ferrées, pas besoin d'autant de pollution, parce que chacun est responsable du problème. Sauf que cela, on a bien du mal à le voir. On a bien du mal à l'assumer et dans nos vies communément, en général, on fait tous finalement l'effort qui nous semble raisonnable. Je dirais, en tout cas pour ma part, on regarde un petit peu ce que les autres font, on essaye de faire un effort raisonnable par rapport à notre mode de vie, en essayant même d'être un petit peu au-dessus pour le côté sentiment, oui, je fais mieux que les autres, je fais bien les choses au niveau de l'environnement. Voici notre responsabilité individuelle que souvent on cale sur ce que les autres font. Et on trouve combien il est dur de faire changer ce monde, combien il est dur de faire bouger les masses. Si on en appelle à cette responsabilité individuelle qui pourtant, je le crois, est mise en valeur à cet endroit. Cyril Dion et Pierre Rabhi ont fondé une association qui essaye de parler de ça, une association qui s'appelle Colibri. Et elle s'appelle Colibri par rapport à cette légende amérindienne qu'on entend beaucoup raconter ces temps-ci, où lorsqu'il y a eu un grand feu, tous les animaux ont fui la forêt. Et le colibri, dans son petit bec, est allé chercher quelques gouttes d'eau pour le cracher sur le feu. Les autres animaux se sont moqués de lui en lui disant « Mais tu vas rien faire, tu vas pas l'arrêter ce feu. » Et le colibri répond simplement « Oui, mais au moins j'aurais fait ma part. » Voici ce qu'est la responsabilité individuelle, je le crois, dans ce cas-là. voici ce qu'est la responsabilité individuelle pour le bien collectif que nous avons chacune et chacun. Et cette responsabilité individuelle, je crois qu'en tant que protestants, nous avons un rapport particulier à cela. Parce qu'au moment de la réforme, en voyant que l'Église avait gardé pour elle le trésor des Écritures et il était très dur pour le peuple d'avoir accès aux Écritures, elle gardait pour elle un pouvoir. La réforme a voulu repenser l'Église en disant « Cette Écriture, elle doit être donnée à chacune et chacun. » En cela, elle crée des écoles, elle traduit la Bible dans les langues vernaculaires et elle répand la Bible, elle les imprime pleinement pour que chacune et chacun puisse lire la parole de Dieu. Énorme privilège, il n'est plus dans les mains seules des clercs. Énorme responsabilité aussi. D'un coup, la pauvre personne qui trouvait ça très confortable de dire « Moi je crois à ce que croit l'Église, je fais confiance, je fais ce qu'on dit de faire », on lui dit d'un coup « Non, tu es responsable de ta foi devant Dieu. Tu es responsable de la vie que tu mènes, des choix que tu fais, de ta connaissance de l'Évangile, de la façon dont tu vas l'intégrer à ta vie. C'est une énorme responsabilité qu'on a d'un coup donnée sur chacune et chacun. » Aujourd'hui, cette responsabilité, c'est de ne pas se contenter d'écouter le pasteur raconter la Bible, c'est de ne pas se contenter d'écouter un commentaire, c'est de pouvoir, par exemple, soi-même penser son rapport à Dieu, soi-même le cultiver, soi-même prier, soi-même se tenir devant Dieu. En ne comptant pas sur l'huile des autres lampes, finalement, le fait que telle église va bien ou telle chose marche bien, au cas où je demanderai de partager de l'huile. Non, nous sommes responsables devant Dieu de maintenir notre flamme allumée, d'avoir cette réserve de combustible pour ce monde. Nous parlions d'une crise environnementale très visible. Je crois qu'il y a aussi une crise spirituelle, tout aussi visible si on veut bien la regarder, une crise du manque cette fois-ci, plus du trop de la surconsommation, mais du manque de spiritualité, de manque de cette profondeur de la vie, de ce lien avec Dieu, du manque peut-être de prière qui appauvrit ce monde, je le crois. Et cette parabole des 10 vierges nous dit, est-ce que nous voulons être des fous qui acquiescent avec la majorité à la non-nécessité d'entretenir cette flamme, d'être de ceux qui, finalement, suivent ce monde. Ou est-ce que nous voulons être des sages qui entretiennent cette huile, qui gardent ce lien vivant avec Dieu, malgré ce que les autres peuvent penser, malgré ce que les autres peuvent dire, malgré ce que la vie générale pense, être responsable, soi-même, de ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on vit et comment on l'incarne chacune et chacun dans notre vie. Ne pas se contenter comme d'une fatalité du déclin de la spiritualité. Ne pas faire comme les autres. Face à Dieu, il y a cette phrase tellement dure, « Je ne vous connais pas ». Alors bien sûr, c'est une parabole, bien sûr Dieu nous connaît, mais je ne connais pas cette foi qui pense que les autres pensent sans vouloir l'associer personnellement. Face à Dieu, entretenir cette spiritualité, cette huile si importante pour notre vie. Un peu plus tôt dans l'Évangile, Jésus avait dit à ses disciples, « Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Et une façon de dire que ce retour du marié, ce retour du roi, cette fin des temps, est quelque chose qui met en lumière la vérité, qui dit « Ah ben non, sur ces trois bâtons, c'est celui-là qui est la même taille que celui-là », qui clarifie les choses, qui donne ce qui est vrai, qui donne la raison de chaque acte. Et c'est un petit peu ce qui illustre cette parabole au moment du retour du mari, où d'un coup, la façon dont vécu, dont préparé ses vierges, ce moment est mis en lumière. C'est là une énorme responsabilité pour notre vie. Mais on sait bien que annoncer l'évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle, et que si on restait sur cette fatalité, ça serait difficile. Cette bonne nouvelle, elle nous dit aussi combien Dieu compte sur nous et nous met en valeur. Combien il donne de l'importance à chacun de nos actes. Il nous prend pour des êtres responsables, il nous prend pour des coéquipiers, des personnes qui vont amener l'époux à l'épouse, qui font partie pleinement de l'Église. C'est sur ça qu'il compte. C'est ça qu'il veut pour nous, des personnes qui, quand bien même l'amour diminuerait dans ce monde, maintiendraient l'amour vivant, quelles que soient les iniquités, quelles que soient les raisons, quels que soient les temps. C'est la bonne nouvelle de notre responsabilité individuelle. Amen.